Miguel Hernandez.
Les organisations nationales et internationales actives au Proche-Orient recevront une enveloppe de 13 millions de francs. La commission de politique extérieure du Conseil des États l'a décidé aujourd'hui. 17 organisations établies en Suisse toucheront cette aide, comme le Comité international de la Croix-Rouge, des organisations des Nations Unies et des organisations internationales non gouvernementales. L'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, n'en fait pas partie. La commission a également approuvé 7 millions supplémentaires pour les populations du Liban et de Syrie. Le nord de la bande de Gaza vit ses heures les plus sombres. Une déclaration aujourd'hui du haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Nous sommes confrontés à ce qui pourrait s'apparenter à des atrocités criminelles, incluant de possibles crimes contre l'humanité, a-t-il averti. Il s'inquiète que le gouvernement israélien vide le nord de Gaza de tous les Palestiniens. Et à Gaza encore, le Hamas annonce des centaines d'arrestations dans un hôpital du nord de l'enclave. Les forces israéliennes ont pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan à Jabilia, selon le ministère de la Santé. L'armée détiendrait des centaines de patients, du personnel médical et des personnes déplacées qui s'y étaient réfugiées à cause des bombardements, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a pour sa part indiqué qu'elle avait des informations concernant la présence de terroristes et de leur infrastructure dans la région. Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé a lui déclaré avoir perdu le contact avec le personnel de cet hôpital, le dernier fonctionnant dans le nord de Gaza. Une situation inquiétante, a-t-il déclaré. En Turquie, le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, revendique l'attentat commis mercredi près d'Ankara. Une attaque qui a visé le siège des industries de la défense. Il a fait 5 morts et 22 blessés. Les autorités semblent vouloir engager une négociation avec les combattants kurdes. La Corée du Nord estime qu'un déploiement de ses troupes en Russie serait conforme au droit international, une déclaration de l'agence officielle KCNA, sans pour autant confirmer ou infirmer qu'elle avait déjà envoyé des soldats sur place. Le nombre d'élèves dans la formation post-obligatoire en Suisse devrait fortement augmenter d'ici 2033, plus 15% par exemple pour les jeunes du secondaire 2. Cette estimation émane de l'Office fédéral de la statistique qui se base sur le nombre de naissances entre 2003 et 2020. Cette hausse concerne surtout les domaines des technologies de l'information, de la santé et du social. Migros ferme le site de location d'appareils électroniques Youno. Au total, 22 collaborateurs ont été licenciés et selon l'entreprise, ils auraient tous retrouvé un emploi. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la réorientation de stratégie du groupe Migros, selon une porte-parole. Elle confirmait une information parue dans les journaux de l'éditeur alémanique CH Media. Une attaque de pirates informatiques paralyse la plateforme de connexion OneLog, une plateforme commune à de nombreuses maisons d'édition du pays. Il n'est plus possible de s'y connecter, selon Tamedia, depuis hier. Les contenus de certains titres sont temporairement en libre accès, de même que la version en ligne des journaux. Le service OneLog est utilisé par plus de 40 portails en ligne, dont Ringier et la SSR. Marco Dormat, skieur d'or, pour qui récompense le meilleur skieur de l'année, hommes et femmes confondus, une distinction décernée par un jury de journalistes internationaux depuis 1963. Le Nidwaldien de 27 ans avait déjà gagné ce prix en 2022. Il succède à Michaela Schifrin. Marco Dormat qui a terminé devant la Ragout Berami. Des nuages peuvent se former cet après-midi et il fera jusqu'à 16 degrés, maximum 20 degrés en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, partageons les plus belles émotions. Pour sa 37e édition, le Jazz 11 Plus Festival Lausanne revient du 29 octobre au 3 novembre. Branford Marsalis Quartet, Christian McBride Trio, Michel Ngeocello, Roberto Fonseca Trio ou encore Vanessa Moreno et Saloma Osoares. Fidèle à sa mission, l'événement lausannois représente toute la diversité du jazz d'aujourd'hui. Plus d'informations sur jazz11plus.ch. Retrouvez le festival en direct le vendredi 1er novembre dès 19h dans Jazz sur RTS La Première.
Et à la régie, Marie-Claude Cudry, une équipe entièrement féminine pour une émission totalement féminine. Soyez toutes et tous les bienvenus. « Le 19e siècle marque un grand pas en avant dans l'histoire de nos compositrices. La création musicale féminine connaît un essor considérable. Nous en avons eu un premier aperçu dans l'émission d'hier qui nous présentait les principales compositrices germaniques du 19e siècle. La France du 19e n'est pas en reste. De nombreuses études révèlent qu'entre 1789 et 1914, pas moins d'un millier de femmes ont exécuté ou fait exécuter en concert et même parfois publié des œuvres qu'elles ont elles-mêmes composées. Il s'agit là pour la plupart d'œuvres d'amateurs, certes, mais ça en dit long sur le besoin d'expression artistique des femmes de cette époque. Et je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre des compositrices françaises qui ont su braver les préjugés de leur temps pour exister en tant que musiciennes professionnelles et surtout susciter la reconnaissance de leur père. C'est Louise Farinck qui donne le la avec une très jolie ouverture pour orchestre que voici.
Thank you.
Christophe Koenig, les solistes européens du Luxembourg, interprétaient la deuxième ouverture pour orchestre de Louise Farinck, l'une des rares compositrices françaises de cette époque à s'être aventurée dans l'écriture d'œuvres symphoniques. Au XIXe siècle, devenir compositrice n'est toujours pas une chose aisée, même si la Révolution française a apporté aux femmes de nombreux espoirs. La situation ne s'améliore pas vraiment pour elles. Comme dans les siècles précédents, les femmes ont peut-être accès aux classes du conservatoire, mais elles n'ont pas accès à celles d'écriture. Il faut attendre la seconde moitié du siècle pour que les premières femmes accèdent aux classes d'écriture. Seules donc, les jeunes femmes issues de milieux socioculturels favorisés peuvent se former à la composition. Ce sont celles qui ont des parents musiciens, celles qui épousent des musiciens ou des compositeurs, ou alors celles qui naissent dans une famille noble disposée à leur donner une éducation importante. C'est le cas de Louise Farinck. Louise Farinck est née en 1804 d'un père sculpteur. Elle bénéficie d'un milieu bohème de la communauté artistique de la Sorbonne. Louise a le privilège d'étudier le piano auprès de Moscheles et de Hummel, deux pianistes très en vogue à cette époque. Elle prend également des leçons d'harmonie avec Antonín Rajcsa, l'un des professeurs de composition les plus renommés et surtout professeur au Conservatoire de Paris. On peut donc dire que Louise est l'une des rares compositrices de la première moitié du XIXe siècle à avoir bénéficié d'une formation semblable à celle des élèves masculins des classes d'écriture du Conservatoire. Hummel va jouer également un rôle indirect dans sa formation de compositrice, au travers de sa musique de chambre que Louise étudie de manière approfondie et surtout utilise comme modèle pour ses propres œuvres. De Louise Farinck, voici maintenant le final d'un sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cors, basson et piano.
Thank you.
On sent tout le métier de Louise Farinck dans ce final d'un sextuor pour flûte au bois, clarinette, corps, basson et piano que nous offrait ici les Vents Français, un ensemble qui s'est constitué autour du piano d'Éric de Sage et de la flûte d'Emmanuel Pahut. Comme Louise Farinck, la célèbre cantatrice Pauline Viardot a bénéficié d'un environnement familial bénéfique. Pauline est la fille du ténor espagnol Manuel Garcia, un des créateurs du Barbier de Séville. Et sa sœur est Maria Malibran, célèbre cantatrice décédée prématurément à l'âge de 28 ans. Pauline débute donc très jeune son éducation musicale avec son père. Mais elle a également la chance de prendre des leçons de piano avec un certain Franz Liszt. Liszt qui l'encourage à poursuivre son éducation musicale et à composer. Alors un peu contre la volonté de Madame Garcia qui voulait que sa fille devienne cantatrice pour perpétuer la tradition familiale. À la mort de son père en 1832, Pauline se serait installée avec sa mère à Bruxelles où elle aurait terminé sa formation musicale. D'autres sources racontent qu'elle aurait poursuivi ses études à Paris en étudiant la composition sur le conseil de Liszt avec Antonin Reich. Et il paraît même que Rossini aurait manifesté le désir de lui enseigner la composition. Sous un tel patronage, Pauline Viardot acquiert une maîtrise d'écriture que des compositeurs contemporains ont rapidement remarquée. De Pauline Viardot, voici deux mélodies, la Havanaise et Hi Louis. Thank you. Cécilia Bartoli, accompagnée par Jean-Yves Thibaudet, interprétait ici « Ay Luli » et « La Havanaise », deux mélodies de Pauline Viardot, compositrice qui a eu la chance et le privilège de recevoir l'enseignement de personnages importants. Liszt, Rossini, Antonin Reicha, on peut dire qu'elle a eu les meilleurs précepteurs. Et c'est un peu le cas des compositrices françaises par opposition aux compositrices allemandes que nous découvrions hier. Si elles n'ont pas épousé des personnalités célèbres, en revanche, elles ont eu le soutien et les encouragement des plus grands. L'année 1861 marque un tournant dans l'histoire de la musique des femmes. À compter de cette date, les jeunes filles ont enfin l'accès aux études de composition et peuvent concourir comme n'importe quel homme au prix d'écriture du Conservatoire de Paris. Le nouveau règlement du Conservatoire supprime enfin la petite phrase lapidaire qui stipulait que les classes d'écriture étaient réservées aux hommes. Cette ouverture du Conservatoire aux femmes a une conséquence non négligeable sur le profil des compositrices. L'enseignement fourni par le Conservatoire étant gratuit, les classes de la vénérable institution peuvent désormais accueillir des élèves de diverses origines sociales. Dès lors, l'enseignement de la musique n'est plus l'apanage exclusif de la noblesse. Plusieurs femmes d'origine relativement modeste sont ainsi distinguées dans le domaine de la composition. La plus célèbre d'entre elles est certainement Germaine Taillefer, qui se distinguera au siècle suivant, mais son exemple est plutôt éloquent. Germaine Taillefer est la fille d'un représentant en d'origine normande. Elle a été initiée à la musique par sa mère, mais elle a dû vaincre l'opposition paternelle farouche à sa vocation. La musicologue Florence Launay, qui a publié un livre magnifique consacré aux compositrices françaises du 19e siècle, raconte que Germaine Taillefer a vu son désir d'entrer au Conservatoire de Paris accueilli d'un « Pour ma fille, être au Conservatoire ou faire le trottoir Saint-Michel, c'est la même chose. Jamais je ne donnerai mon autorisation ». Et nous sommes déjà en 1904, alors imaginez les premières femmes qui veulent s'inscrire en 1861, c'est plutôt compliqué. Germaine a dû fréquenter les cours de solfège du conservatoire en cachette jusqu'à obtenir une première médaille de solfège pour renverser la situation. C'est alors que son père réalise l'orgueil qu'il peut retirer de la présence dans les journaux du nom de sa fille parmi les lauréats de l'institution.
Thank you.
Germaine Taillefer a composé ce trio pour piano, violon, violoncelle que nous offrait ici Christina Ariano au piano, Massimo Marin au violon et Manuel Zigante au violoncelle. Parmi les compositrices qui ont eu la chance d'être admises au Conservatoire de Paris figure également une certaine Mélanie Bonis. Mélanie est issue d'un milieu ouvrier parisien, nullement musicien. Sa mère est passementière et son père contremaître chez un horloger. Elle découvre la musique à l'église de son quartier. Un piano traîne à la maison, la petite y passe toutes ses journées. Des connaissances de la famille font prendre conscience à ses parents de son immense talent. À 18 ans, Mélanie est présentée à César Franck, ami d'un ami de la famille. Le vénérable compositeur la prend sous son aile et lui dispense des cours qui très vite permettent à la jeune fille d'accéder au conservatoire. Elle y entame un cursus qui l'amène dans la même classe de compositiens qu'un certain Claude Debussy. Des péripéties sentimentales vont signer en 1881 l'arrêt brutal de ses études musicales et surtout la démission forcée du conservatoire, quelques mois seulement avant le concours final. Mélanie Bonis a néanmoins obtenu au conservatoire une solide formation.
Thank you.
Mélisande, Salomé et Ophélie, ce sont quelques-unes des femmes de légende imaginées au piano par Mel Bonis. Nous les écoutions ici dans l'interprétation de Maria Stembolkaya. Florence Launay, dont le livre sur les compositrices en France au XIXe siècle me sert de référence, pense que le professeur au conservatoire de Mélanie, un certain Ernest Guiraud, envisageait sérieusement de présenter son élève au concours de Rome, puisque Mel était avec Debussy la meilleure élève de sa classe. On peut imaginer les difficultés qu'il aurait rencontrées si Mel était restée au conservatoire. La participation des jeunes filles au prix de Rome se révélera suffisamment controversée 20 ans plus tard. Il faut donc attendre 1913 pour qu'une femme décroche enfin ce fameux Graal en la personne de Lili Boulanger. Contrairement à Germaine Taillefer et à Mélanie Bonis, Lili Boulanger est issue d'une famille de musiciens. Son père, Ernest Boulanger, est compositeur et professeur de chant au conservatoire. En 1835, il a remporté lui-même le Grand Prix de Rome. Quant à sa mère, née princesse Raïssa Ivanovna Michetsky, elle est originaire de Saint-Pétersbourg et fait carrière comme cantatrice. Chez les Boulangers, l'ambiance familiale est donc propice à l'étude de la musique. Lili et sa sœur Nadia témoignent d'étonnantes dispositions, chacune à sa façon. Nadia se tournera vers l'enseignement et deviendra la pédagogue que l'on connaît. Lili, de son côté, se montre plutôt douée pour la composition. Le compositeur Gabriel Fauré est émerveillé par sa précocité et lui donne ses premières leçons de piano. Lili est de santé fragile. Elle ne reçoit pour commencer son éducation musicale qu'à domicile. Enfin, en 1909, elle est admise au Conservatoire de Paris, dans la classe de composition. Elle se distinguera 4 ans plus tard en remportant le fameux Grand Prix de Rome. Elle est ainsi la première femme à décrocher cette distinction prestigieuse et surtout très convoitée. De Lili Boulanger, je vous propose d'écouter La vieille prière bouddhique. C'est une pièce écrite pour ténor, chœur mixte et piano, composée entre 1914 et 1917. La compositrice met ici en musique des vers tirés d'un récit hindou qui se distingue par son message de paix et de tolérance.